L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi et rediffusée à 18h. Et nous revoilà en rade, non pas de côté, mais en rade de Brest, bien sûr. La rade en arrière, vers le passé. C'est un beau projet baptisé Historade. C'est de l'histoire, mais pas seulement, vous allez comprendre. Alors avec moi, pour cuisiner notre invité, il y a Jean Causeur. Jean, c'est toi qui vas nous présenter cet invité, en tout cas ses qualités scientifiques.
Bonjour Véro, aujourd'hui nous accueillons dans notre studio Lucas Bosbeuf. Il est doctorant à l'UBO à Brest, spécialisé dans la biologie et l'histoire marine, et travaille en ce moment sur le projet Historade avec l'aide d'autres chercheurs dont Yves-Marie Paulet, Laurence David et Philippe Jarnot. Bonjour Lucas.
Oui, bonjour.
Alors pour commencer, le challenge, présentez-nous ce projet Historade. Bon, alors c'est vraiment un défi parce que c'est très vaste. Hein.
Sacré challenge, effectivement, puisque alors pour bien comprendre le projet, il faudrait le resituer dans son contexte. Alors, brièvement, le projet Historade, c'est un projet d'histoire écologique et scientifique. Mais en fait, il faut savoir qu'on part d'un constat actuel en rade de Brest, c'est que la pêche, cette année encore, est quasiment fermée parce qu'il manque des ressources marines exploitables.
Notamment la coquille, c'est ça ?
La coquille, notamment.
Mais pas seulement ?
Pas seulement, il y a l'huître plate, les palourdes, les praires, enfin, beaucoup de mollusques. Cependant, il est difficile de prévoir aussi son futur. On comprend aisément cela. Pour ce faire, Yves-Marie Paulet a créé en 2019 le projet Historade. C'est un projet scientifique qui a pour but de retracer le passé de la rade de Brest, essayer de comprendre en fait pourquoi nos ancêtres, ils ont certainement connu ce genre de facteurs, notamment d'apparition ou disparition d'espèces marines en rade de Brest. Cependant, il faut apprendre à les connaître, tout simplement.
Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est à la fois un projet, on pourrait dire historique, mais c'est de la biologie. Le laboratoire qui dirige le projet, alors c'est quoi ? Alors c'est quel laboratoire ?
Alors c'est un laboratoire de l'UBO, donc l'Université de Brest. À l'intérieur de l'Université de Brest, il y a un établissement qui s'appelle l'Institut universitaire européen de la mer, donc
l'UEM,
qui concerne l'UEM, voilà, la mer. Et à l'intérieur même de ce labo, une autre boîte dans une boîte, c'est le LEMAR, donc c'est un laboratoire de biologie. Et j'interviens j'ai une double casquette. J'ai eu la chance d'avoir fait des études en histoire et aussi en écologie, ce qui fait que je peux confronter des regards disciplinaires pour étudier la rade de Brest sous l'angle écologique et historique.
Et votre thèse, ça sera une thèse de biologie. Vous ne ferez pas une double thèse, enfin si vous aurez.
Ce sera une thèse d'histoire environnementale, voilà.
C'est nouveau cette matière, cette discipline
Alors c'est assez peu fréquent, oui. Il me semble qu'il n'y en ait pas beaucoup d'autres en France qui fassent ce genre d'études, notamment puisque la recherche a été pendant très longtemps cloisonnée entre disciplines. Or, quand il y a un problème qui survient face à nous, je pense notamment au changement climatique, la solution n'est pas que biologique, pas que historienne. Donc il faut regarder sous différentes manières, confronter les regards, et formé à ce qu'on appelle la pluridisciplinarité, donc plusieurs disciplines. Et c'est ce en quoi on espère faire avec ce projet.
Et les autres chercheurs associés qu'on a cités, ils sont rattachés à quoi ? Alors justement, Laurence David, Philippe Jarnoux.
Alors Philippe Jarnoux, lui, est historien. Laurence David est cartographe. Ils sont dans des laboratoires différents. Mais il faut justement essayer de les faire communiquer ensemble, au sein de mêmes réunions, confronter leurs regards, puisque un même événement peut être analysé de différentes manières. Ce qui fait que, c'est tout le projet Histoire.
Et donc ça va durer combien de temps ? Enfin, ça a commencé quand ? Ça se termine quand, à peu près ?
Alors officiellement, ça a commencé il y a peu. Donc moi, j'entame une thèse, c'est un travail de 3 ans. Alors, pour l'instant, 3 ans, mais on a conscience que ce travail va être certainement plus long. Ça peut être le travail de toute une vie, on imagine. Donc voilà.
Il pourrait y avoir d'autres doctorants en fait, qui rejoindraient le projet au fur et à mesure, éventuellement, pour continuer ce que vous faites, par
tout
exemple.
Tout à fait.
D'accord. Alors, sur le territoire, on a compris que c'est la rade de Brest, mais encore, c'est quoi ? Il y a aussi la côte.
Alors, oui, c'est effectivement le milieu marin, donc la rade de Brest, donc c'est 180 km d'espace aquatique, on va dire. Mais il y a aussi la terre, puisque là encore, c'est une nouveauté. Donc, avec ce projet Historade, on a parfaitement conscience que la mer est conditionnée par la terre également. Il y a un lien effectible et notable. Donc c'est pour ça que l'on s'attache notamment à étudier ce qu'il y a sous l'eau, sur l'eau, je pense notamment à la pêche, aux activités marines, mais aussi sur la terre. Je pense notamment dans les bassins versants de la rade de Bresse qui peuvent aller jusqu'à 80 km d'ici. Si par exemple, on voit que l'agriculture, il y a eu des pratiques, une évolution des pratiques agricoles, ça peut avoir des incidences sur les ressources en rade de Bresse à 80 km plus loin.
Jean, tu veux poser une question ?
Si, je voulais revenir sur comment vous parliez de confrontation, par exemple, entre Philippe Gernoux et Laurence David, puisqu'ils étaient deux professeurs de spécialités différentes, et vous disiez qu'il fallait se confronter pour trouver, pour être pluridisciplinaire, mais est-ce que c'est possible que deux professions, deux spécialités peuvent rentrer en conflit, ne sont pas d'accord sur un élément et ne peuvent pas s'associer ?
Tout à fait, oui, c'est effectivement une très bonne question, puisque notamment avec la notion de crise. Enfin, aujourd'hui, tout est crise, rien n'est crise. Et quand les scientifiques se parlent et se réunissent entre eux dans des congrès et qu'ils parlent d'une crise de la pêche, c'est assez flou comme terme et personne n'est finalement très d'accord sur le fond. Je pense notamment, si par exemple vous entendez une crise de la pêche, sardinière en baie de Douarnenez, les historiens vont interpréter cette crise par le fait qu'il y a eu une absence de la sardine, ce qui fait qu'il y a eu une diminution de la ressource, les emplois à terre sont touchés, affectés, l'économie locale est donc dévastée. Donc c'est une crise. Pour le biologiste, en revanche, s'il y a une crise de la sardine, sous l'angle des historiens, ce n'est pas forcément une crise pour lui, puisque la sardine est, laissée tranquille, et elle va se renouveler. Donc il peut y avoir une confrontation de vision comme ça. C'est parfois sur des mots, sur des théories, et on essaye malgré tout passer au-delà de ça, mais aussi justement se confronter à ce genre de problème, parce qu'il faut qu'on s'y confronte pour passer à autre chose.
Ouais, vous définissez les termes ensemble avant de commencer.
Exactement.
Et puis les méthodes aussi. Alors justement,
tout à fait.
Qu'est-ce que vous avez déjà pu réaliser aujourd'hui.
Jusqu'à aujourd'hui, alors c'est vrai que là, je vous ai dit que j'avais commencé en octobre, mais c'est pas totalement vrai. En fait, j'ai commencé il y a 3 ans, donc quand le projet est né, Yves-Marie Paulet a lancé le projet en 2019, et j'ai tout de suite travaillé dessus. Donc j'ai eu cette chance-là et cet honneur. Et pendant 6 mois, j'ai eu l'occasion de faire un stage qui a eu pour effet, de débroussailler un petit peu ce terrain d'étude. Est-ce qu'on peut étudier ça, si c'est prometteur, s'il y a quelque chose à faire quand même. Pendant cette première période de 6 mois, on a eu de stage. J'ai fait des recherches en archives, mais j'ai également fait un premier bilan, un premier rapport de mes études, notamment sur comment évoluent certaines ressources marines en rade de Brest entre 1860 et 1960. Voilà.
Donc, qu'est-ce que vous aviez constaté déjà ?
Beaucoup de choses. Déjà que la coquille Saint-Jacques n'était pas forcément un mets très apprécié au début. Donc, quand on voit les prix maintenant, il faut voir, à la fin du 19e siècle, les prix étaient nettement plus bas. Mais en dehors, blague à part, on a aussi noté qu'il y avait eu une exploitation d'huîtres plates assez intense en rade de Brest, qu'elle en tapissait la rade de Brest pendant plusieurs décennies, même plusieurs siècles, qu'elle s'est largement appauvrie, amenuisée, et aujourd'hui on n'en a plus la mémoire, ce qui fait qu'on a pu répéter les erreurs du passé, notamment avec la coquille Saint-Jacques. Ouais. Donc aujourd'hui, on est encore confronté à notre passé.
Vous avez notamment un outil dans votre... Je signale aux éditrices et aux éditeurs que Historade, c'est aussi un site internet vraiment complet, vraiment intéressant. Et vous avez commencé une... Enfin, vous avez... vous avez créé une frise chronosystémique. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Alors, c'est un terme un peu complexe, limite un peu grossier, mais en fait, c'est quelque chose de très simple. Enfin, on s'imagine une frise chronologique, on la connaît tous, au-dessus du tableau de la maîtresse ou du maître, donc l'histoire de l'histoire de France, avec des événements, donc les rois et les reines, et les événements politiques. Ici, nous, notre projet, c'est d'étudier l'état de santé de la ressource en rade de Brest. Donc, on va intégrer dans cette frise plusieurs événements de différents types, notamment les évolutions agricoles, les événements météorologiques extrêmes, l'état de santé aussi de nos ressources, les activités, par exemple, on a beaucoup pêché. Et quand on confronte toutes ces données, on peut regarder plus fidèlement ce système, comment l'homme est confronté à ces disparitions ou apparitions de ressources, comment il est vulnérable, s'il s'est adapté, oui ou non.
Donc c'est un instrument qui est toujours en perpétuelle
construction.
D'accord.
Tout à fait.
Et vous ne savez même pas en fait quand elle va commencer, parce que si vous remontez très loin dans le temps, en fait, vous pourrez remonter, je sais pas, à la préhistoire.
Tout à fait. Il y a différents chercheurs qui gravitent autour de ce projet et qui sont effectivement qui travaillent dans des temps très 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 anciens. Je pense notamment au néolithique, mésolithique. Eux, ils ont des informations sur la rade de Brest et les alentours qui datent de moins 5000 ans avant Jésus-Christ. Voilà.
Ah oui, juste pour savoir, c'est quel type de source et c'est quel type d'information?
Alors, eux, ils font des fouilles. C'est des fouilles qui sont réalisées donc en divers points de la rade de Brest, mais il n'est pas forcément évident d'avoir des informations très précises, puisque parfois les fouilles ne donnent pas lieu à beaucoup d'informations. Donc voilà.
Vous n'en êtes pas encore à la paléontologie? Vous n'examinez pas encore les fossiles pour voir s'il y avait des huîtres plates
Alors ça, oui,
il y a des millions d'années.
Ça, hélas, ce n'est pas de ma compétence. Je ne pourrais pas vous répondre.
Oui, vous pourriez avoir des géologues dans l'équipe, en fait.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Bon. Tout à fait. On essaye vraiment de mobiliser tout un consortium d'acteurs, qu'ils soient académiques ou non, autour de ce projet.
Et alors, dans le projet Historal, vous avez quand même défini des sous-thématiques. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer?
Dans le projet Historad.
Ouais.
Sur le site internet, on a en fait effectivement cette frise chronosystémique qui permet de mettre en confrontation plusieurs données et plusieurs événements pour avoir un regard plus fidèle sur l'histoire de la rade de Brest. On a également une carte interactive à partir de laquelle toute personne intéressée, qui était par exemple un ancien pêcheur ou une ancienne pêcheur, puissent nous dessiner à travers cette carte où étaient les bancs de poissons, les gisements de coquilles Saint-Jacques, etc. Nous, ça nous aiderait beaucoup pour déterminer l'évolution des gisements d'une année à l'autre ou d'une décennie à l'autre. On a également sur ce site internet des dossiers avec des thématiques. Je pense notamment, on a recueilli assez d'informations pour faire 3 dossiers pour l'instant.
Notamment, c'est à ça que je pensais, oui.
C'est à ça. Parfait. Du coup, c'était donc l'évolution de l'huître plate en rade de Brest. On a eu un autre dossier aussi sur donc le moteur, l'usage du moteur. On est passé de la voile au moteur, qui n'a pas été de tout repos. Ou encore les épisodes de fraude qui se sont déclarés en rade de Brest.
Ah, qu'est-ce que c'est ça, la fraude? Qu'est-ce qu'on entend? Enfin, des fraudes de quoi?
La fraude, alors il y a plusieurs types de fraudes et je crois que de toute façon elle existera toujours. Donc spoiler, ça ne prendra jamais fin, je pense. Ce sont notamment des épisodes de fraude parce qu'on pêche trop, parce qu'on pêche en dehors des heures qui sont autorisées, ou parce qu'on pêche des coquilles de trop petite taille. Donc, voilà.
D'accord, donc c'est quand même le point central de vos recherches. Comme vous disiez, c'était la ressource.
Oui.
La ressource quand même au sens large, c'est-à-dire, ça ne va pas, peut-être quand même pas jusqu'au plancton, c'est tout ce qu'on mange, quoi, en fait, c'est ça
Tout à fait. Pour l'instant, nous, on s'intéresse, on va dans les archives, et on s'intéresse notamment à l'état de santé des coquilles Saint-Jacques, des huîtres plates, praires, pétoncles, et pétoncles noirs et pétoncles blancs. Et aussi ce qu'on appelle les amendements marins. Donc ce sont le merle et le sable coquillé qui sont ensuite utilisés pour fertiliser les sols agricoles.
Ah oui, parce que oui, vous pourriez aussi vous intéresser aux algues.
Tout à fait, on s'y intéresse.
Ouais, un petit peu quand même. Mm-hmm. Ouais. Et vous avez mentionné les poissons. Donc il y a des espèces éventuellement que vous allez suivre en particulier
Oui. Si les archives nous le permettent, puisqu'encore une fois, on est conditionné par l'archive. Quand on consulte des archives, si on n'a pas de traces d'un poisson ou d'un crustacé ou d'un mollusque, on ne peut pas en parler.
Alors justement, on va peut-être revenir sur la méthode, là, justement. Comment est-ce que vous faites? Donc, on a compris que vous ne mettez en ligne un dossier que quand vous avez suffisamment de données, mais vous partez de quoi, alors, en général? Ouais.
On part des archives. Pour l'instant, la méthode que je suis, c'est qu'en gros, je vais dans les secteurs d'archives, que ce soit municipaux, départementaux ou nationaux, et je vais chercher dans des cartons, donc c'est des grands cartons où il y a des informations réparties selon thématique, et je consulte ces cartons pour voir la gestion de la donnée, comment évolue un banc de poissons, etc., etc. Et à partir de ce moment, je les prends en photo, je les retranscris sur mon ordinateur, j'essaye de mettre ces données et de les confronter les unes aux autres, et d'essayer de sortir quelque chose de scientifique et d'objectif. Voilà.
Alors, prenons par exemple les archives municipales. Ça fait pas mal de communes au bord de la rade, là. Vous en avez exploré combien, enfin...
Et ben, pour l'instant, vu que ce projet démarre tout juste, je suis plutôt allé aux archives départementales qui, elles, ont eu le bénéfice justement d'avoir été versées des mairies, en fait. les mairies viennent déposer leurs archives dans leur service, ce qui fait que ça centralise un petit peu ces recherches.
Et comment était votre pêche dans l'ensemble ?
Je pense comme toute personne qui s'attelle à un travail historique, on est parfois déçu, on est parfois content. Pour l'instant, c'est un travail de débroussaillage. Donc j'ai trouvé, on va dire, quelques pépites. Mais,
ah oui, par exemple, ouais.
J'ai trouvé des cartes, notamment sur l'évolution des bancs et des gisements en rade de Brest. Donc des cartes qui datent de 1910, de 1850, où déjà certaines personnes s'attelaient à mentionner sur une carte où étaient positionnés les gisements d'huîtres plates de Coquille Saint-Jacques, alors à des fins pas écologiques, mais plutôt économiques.
Donc des patrons pêcheurs, entre guillemets.
Tout à fait, même des gestionnaires, les autorités maritimes, qui voient en cette ressource finalement quelque chose d'important et de précieux d'un point de vue économique, ce qui fait qu'elles les surveillent pour mieux les contrôler.
Et juste pour savoir, les archives nationales, ça serait quoi d'intéressant pour vous
Là, ce serait en fait les archives de la marine. Et en fait, ce serait finalement des archives et des correspondances, des lettres entre les autorités maritimes et la préfecture du Finistère, notamment qui parle sur, par exemple, l'apparition d'une espèce, la disparition d'une espèce, mais aussi comment la gérer, comment fait-on pour par exemple, faire face à une disparition et un dépeuplement d'un banc d'huîtres plates, quelles mesures on prend, est-ce qu'on ferme la pêche, qu'est-ce qu'on fait face à la fraude, etc.
Et alors ça, c'est la partie archive.
Tout à fait.
Mais j'imagine qu'il y a autre chose, bien sûr. C'est même un peu pour ça que vous êtes là.
Oui. Effectivement, donc la partie archive est très intéressante. Cependant, il y a eu des bombardements alliés de la Seconde Guerre mondiale qui ont réduit en cendres pas mal d'archives. Ce qui fait que nous, il nous manque des informations. Et c'est pour ça que je profite de cette invitation et de la tribune que vous m'offrez pour appeler à l'aide, tout simplement, et à la contribution, les habitants et les habitantes de la rade de Brest. Si vous possédez dans vos placards et dans vos greniers des informations, notamment des photographies, des cartes postales ou d'autres documents sur l'histoire de la rade de Brest, de la pêche, mais aussi de l'agriculture, notamment, on serait très intéressé aussi d'avoir des documents sur un carnet d'un agriculteur qui nous dit j'ai récolté ça cette année, ça n'a pas marché, etc. Nous serions très contents de les avoir et vous pourriez passer par le site internet.
Ah oui, alors c'est ce que j'allais vous demander. Donc on pense avoir trouvé un document. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ?
Alors si vous pensez avoir trouvé un document, vous pouvez déjà le numériser. Mais si ce n'est pas numérisé, ce n'est pas grave. Nous, on peut se déplacer, on peut vous les emprunter. La finalité, de toute façon, est la même. C'est qu'on consulte vos archives. Si elles nous intéressent, elles passeront entre les mains d'un comité scientifique. Elle sera examinée et ensuite elle sera distribuée et diffusée sur notre site historade.fr. Enfin, évidemment, si on a votre accord.
Oui, c'est ça. Et donc, elle reste un peu immobilisée pendant quelques temps, c'est ça ? Enfin, pour
oui.
Toujours l'aspect pratique.
Oui, pas trop longtemps, mais elle sera numérisée. Puis ensuite, je la remettrai aux mains du propriétaire ou de la propriétaire.
Alors, j'ai cru voir que vous aviez déjà quelque chose sur le site.
Effectivement, on a lancé un appel fin décembre et les retours ont été très encourageants. Notamment, il y avait apparemment des personnes qui dorment et qui sommeillent un petit peu en rade de Brest avec beaucoup d'informations et qui collectent des informations. Je pense notamment à une association, l'association patrimoniale de Loc Maria Plouzané, qui a accumulé une masse d'informations pendant 15-20 ans et qui s'est manifestée à notre égard et nous a divulgué pas mal d'informations. Alors, c'est des rapports qu'ils ont fait eux-mêmes, mais c'est aussi des archives qu'ils ont constatées dans leurs recherches, qui existent sur d'autres sites, je pense à Gallica, mais où on a pu passer à côté. Donc, ils nous ont envoyé leurs réflexions, mais aussi les archives à partir desquelles ils ont travaillé. Je pense notamment, ils nous ont envoyé une carte topographique et toponymique de Plougonvelin. Ce qui fait qu'en fait, si vous voulez, les anciens ont donné un nombre ton à chaque anse ou à chaque périmètre de la côte. Et chaque nom réfère à un événement, notamment un naufrage d'un navire ou d'une chaloupe. Par exemple, ce sera en face de cette pointe, et bien cette pointe s'appellera le naufrage de cette chaloupe.
Oui, mais on est loin de la rade de Brest, non ?
Ça rentre encore dans la rade de Brest. Nous, notre cadre, ça s'arrête au Goulet, on va dire.
D'accord.
Et jusqu'au Fou et jusqu'au bassin versant, évidemment.
Ah oui, donc cette émission, il faut bien que les auditrices et auditeurs, faut pas qu'ils se mettent des barrières quelque part.
Absolument pas. On ratisse très large. Donc, et puis de toute façon, tout reste à écrire, donc tout nous intéresse.
Oui. Ça pourrait être, par exemple, au fou, qu'est-ce que ça pourrait être qui pourrait, intéresser, qui pourrait vous intéresser ?
Au fou, ça pourrait être un ancien pêcheur qui a conservé, par exemple, un carnet de pêche sur ce qu'il a pêché, s'il a noté des événements météorologiques particuliers. Est-ce qu'un agriculteur a exploité un champ, si ça a marché, si ça n'a pas marché ? Est-ce qu'il y a des usines ? J'imagine qu'au fou, il y a eu des usines. Il y a eu, enfin, oui. C'est une certitude, il y a eu des usines de conservation et des conserveries de coquilles Saint-Jacques. Si des personnes travaillaient dans ces usines, nous serons absolument prêts à les écouter.
Et par exemple, vous intéressez, je suppose, aussi aux pollutions éventuelles. Enfin, qu'est-ce que ça pourrait être d'intéressant comme information à ce niveau-là ?
Alors oui, inévitablement, il y a forcément les pollutions, des pollutions d'origine agricole. Voilà, on en entend beaucoup parler. Des
alors pollutions. Avant, il y en avait moins, mais bon, il y en avait quand même. Quoi.
On veut justement voir, parce qu'on a dans notre fenêtre temporelle, donc c'est du 18e à aujourd'hui, du 10e siècle à aujourd'hui, il y a une évolution agricole notable, et on voudrait savoir justement si le passage aux engrais naturels ou aux engrais chimiques, avec les effets du remembrement, ont eu une incidence sur l'évolution des espèces marines en rade de Brest. Il y a, en dehors de cela, et de ces pollutions agricoles, les pollutions d'origine industrielle. Alors j'en ai déjà eu l'occasion d'en relever, notamment dans l'Élorne, avec la pollution de l'usine Dior. Donc c'est une usine de production d'engrais chimiques pour l'agriculture, où là il y a eu des incidents industriels qui ont fait qu'il y a eu des effets de pollution assez considérables. Mais il y a aussi, j'imagine, on a des suspicions de pollution, notamment de la poudrerie de Pont-de-Buis, des poudreries, enfin voilà. Donc en termes de pollution,
ça peut remonter jusqu'à la mine, les mines d'argent de.
Tout à fait, Wellgott.
Voilà.
Oui, exactement. Oui.
Là, il y avait du plomb, enfin notamment oui. Mercure, non peut-être.
Oui, plomb et mine et argent, pardon.
Et donc, enfin, vous dites jusqu'au 18e, mais ça peut remonter plus loin, quoi, éventuellement. Enfin.
Oui, bien sûr. Si on a des informations, tout à fait. Mais après, c'est que. On ne sait pas si on aura ces informations-là, en fait. Donc, on a préféré se limiter et commencer au XVIIIe siècle pour savoir si on aura des informations.
Et puis, il y a d'autres informations qui sont peut-être plus d'ordre anthropologique, enfin, je ne sais pas, sur voilà, le rapport des humains à la nature ou à ces espèces-là, comme vous dites. Est-ce qu'elles étaient appréciées gastronomiquement, c'est ça, non ?
Tout à fait, oui, oui. De toute manière, en fait, une évolution d'une espèce ne peut pas s'appréhender sans qu'on ait l'indicateur de l'homme, en fait. L'homme a forcément un rapport avec l'exploitation d'une espèce et il a forcément une incidence. Donc il va falloir étudier son regard qu'il a envers cette ressource. Est-ce que c'est un regard strictement économique ? Est-ce que c'est écologique, financier ? Donc il va falloir étudier tout ça.
Et par exemple, vous savez déjà, est-ce qu'on a toujours mangé des huîtres ? Est-ce qu'il y a eu des périodes où on ne mangeait plus d'huîtres ? Enfin, déjà ce genre de...
Bah, globalement, on mange toujours des huîtres plates. À partir de 1728, on a une archive qui indique qu'il y a des bancs d'huîtres plates, qui sont très intensivement ravagés et dévastés par l'exploitation en face de l'Andévennec, donc pour une consommation humaine. Donc on peut dire que voilà, on en consomme presque tout le temps, mais il y a aussi les coquilles Saint-Jacques, où, comme je vous le disais tout à l'heure, où c'était peut-être en off, où la coquille Saint-Jacques n'était pas forcément, mais très appréciée et très associée à la luxure, à la richesse.
Mm-hmm. Non, Jean. Jean pour savoir s'il avait une petite question. Donc, donc là, on arrive presque à la fin de l'émission. Enfin, il reste 2 minutes. Qu'est-ce que vous avez prévu ? Donc déjà, la collecte auprès des gens, hein, des riverains de la rade, ça va durer combien de temps, en gros, d'après vous ?
Cette collecte peut durer, donc elle commence à partir d'aujourd'hui, et elle peut durer jusqu'à 2 ans.
Ah oui.
Donc vous pouvez nous contacter d'ici à 2 ans, il n'y a aucun problème, on pourra agir très rapidement.
Et qu'est-ce que vous envisagez déjà, à part le site internet, parce que je l'ai signalé, il est très bien, qu'est-ce que vous envisagez en matière de diffusion, de publication, etc.
Alors en termes de diffusion, donc, comme vous le disiez, il y a le site, mais il y a également une page Facebook, Historia de Brest. Il y a aussi des petits ateliers, notamment, je pense à des podcasts pour interroger des acteurs de la rade de Brest, je pense à des plongeurs, des pêcheurs, ou des passionnés tout simplement, des riverains. Également une carte interactive, la frise, Et puis après d'autres idées, mais c'est peut-être un peu trop loin.
Ouais, bah oui, puis aussi les publications scientifiques. Enfin, de toute façon, vous, votre thèse, typiquement.
Tout voilà, à fait.
Est-ce qu'il y aura d'autres, peut-être des livres, non, je sais pas.
Peut-être. Il y aura un rendu, puisque en fait, vu que je réalise une thèse, je dois rendre un rapport de thèse et un rapport de thèse. Au-delà de ça, je ne peux pas m'avancer sur autre chose, même si j'aimerais bien.
Voilà. Bon, bah nous, de toute façon, on va vous donner rendez-vous. Comme ça, peut-être que d'ici un an, par exemple, on pourra refaire une émission pour voir ce que vous avez découvert, et puis relancer l'appel. Et puis peut-être que nous-mêmes, Radio Évasion, on ira interviewer les gens que vous nous signalerez pour faire profiter aussi les auditrices et les auditeurs.
Eh bien, je l'espère. Et en tout cas, rendez-vous est pris. Merci beaucoup.
Bah, merci beaucoup, Lucas Bosboeuf.
Merci.
Et toutes les informations sur Historade seront aussi sur le site de Radio Évasion, bien sûr.